Les ennuis s'enchaînent pour Air Calin. La compagnie a dû annuler hier soir une nouvelle rotation, celle vers Singapour. Nous ferons le point dès le début de ce journal avec Laurent Fogliani, le directeur de la coordination stratégique de la compagnie. Elles se sont arrachées à bon prix. C'était ce matin la vente aux enchères des carcasses primées lors de la foire de Bourail. Elle s'est déroulée dans les locaux de l'OSEF. Face aux difficultés actuelles d'une grande partie de la population, la FEDE propose la création d'un système de protection sociale universelle. Steve Territeaou, réélu secrétaire général du syndicat, était ce matin notre invité. En métropole, 100 millions d'euros pour la reconstruction en Gironde. Sébastien Lecornu s'est rendu sur place pour travailler avec les élus locaux et pour reconstruire après les incendies. Les suites du piratage des services fiscaux en juin continuent de faire du bruit. Le sénateur socialiste Patrick Kanner réclame la mise en place d'une commission d'enquête. Et puis dans la page sport, l'Olympique lyonnais joue demain son match aller de barrage pour accéder à la Ligue des Champions. Ce sera contre les Turcs de Fenerbahçe. En Calédonie, nous parlerons golf avec le premier tour du South Pacific Junior Open sur le parcours de Tina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est la plus prestigieuse des courses hippiques en Nouvelle-Calédonie. Bien plus qu'une épreuve sportive, c'est une véritable institution. L'hippodrome Henri Millard accueillera dimanche le grand public pour la Casino Coupe Clark qui célébrera ses 100 ans d'existence puisqu'elle a été créée en 1926. Et ce sera le thème de notre magazine Citoyen ce midi. Nous évoquerons l'histoire de cette course pas comme les autres avec nos invités. Éric Sauvent, le président de la Société Sportive de Nouvelle-Calédonie, organisateur de l'événement, Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques, ou encore Robert Christian, l'un des propriétaires de The Star, les vainqueurs de l'épreuve en 2025. Un magazine citoyen spécial Casino Coupe Clark à retrouver dès la fin de ce journal. L'actualité aérienne fait donc une nouvelle fois la une ce midi. Les difficultés se multiplient chez Air Calin et posent de gros problèmes à la compagnie, contrainte Lionel Sabot d'annuler certains vols long courrier.
Oui, dernière annulation en date, celle du vol SB740-741 Nouméa à Singapour qui devait décoller la nuit dernière. Un vol qui est en attente de reprogrammation. Les pannes qui ont des conséquences, vous le disiez, qui commencent à devenir importantes, notamment en cette période de haute saison et au moment où de très nombreux étudiants rejoignent la métropole pour leurs études. En plus de l'annulation du vol de la nuit dernière, la compagnie a également dû annuler deux vols aller-retour sur Bangkok, le vol du 17 août qui n'a pas été reprogrammé pour l'instant, mais aussi le vol du 15 août dont certains passagers avaient été reprogrammés sur le vol de la nuit dernière à destination de Singapour.
Merci Lionel, nous sommes en compagnie de Laurent Fogliani qui est donc le directeur de la coordination stratégique de la compagnie, bonjour.
Bonjour et bonjour à vos auditeurs et auditrices.
Merci de venir en direct pour nous donner les dernières informations sur la situation actuelle de la compagnie. On va d'abord parler des deux pannes sur chacun des A330 Neo de la compagnie, puisque les deux avions sont touchés par des pannes différentes. De quoi s'agit-il et où est-ce que vous en êtes ?
Absolument, nous sommes dans une situation rare et difficile pour nos passagers comme pour nos équipes d'ailleurs. Nos deux A330, donc les deux longs courriers, sont actuellement sous aléa. Un premier, et on le sait désormais depuis quelques jours, pour cause d'odeur persistante, et le second pour impact sur une des lames d'un des réacteurs. Donc nos équipes techniques, évidemment, interviennent sur les deux appareils afin qu'ils puissent répondre aux normes de sécurité permettant leur remise en vol dans les meilleurs délais. Et en attendant, nos équipes commerciales renforcent leur présence auprès de nos passagers pour trouver le plus de solutions possibles et surtout des solutions sur mesure pour chacun d'eux.
Alors, les meilleurs délais, vous n'allez pas nous donner de délais précis, mais vous estimez que les choses peuvent aller vite ?
Alors, les choses peuvent aller vite, c'est-à-dire que déjà, nous sommes renforcés en interne pour pouvoir apporter le meilleur service, c'est-à-dire qu'on a renforcé notre service téléphonique interne. On a eu 643 appels rien que sur la journée d'hier. On a aussi nos escales qui ont pris en charge, dans le cas d'un contact direct avec les clients concernés, l'ensemble de l'hébergement, des transferts et de la demi-pension. Quand ce n'est pas le cas, nos passagers prennent en charge leurs frais et nous demanderons remboursement derrière. Nous avons pour ce faire d'ailleurs un formulaire qui est disponible sur notre site internet où ils peuvent d'ores et déjà déposer des réclamations sous l'onglet contact réclamation. On ne peut pas donner de date de réponse, mais chacune des réclamations sera étudiée et chacune donnera lieu à une réponse.
Alors combien de personnes aujourd'hui, de passagers, sont en souffrance dans les différents aéroports dont les vols ont été annulés ?
Très bien. Alors là, on va différencier les aléas avant le 16 août, d'après le 16 août. Donc l'ensemble des passagers qui étaient concernés par les aléas avant le 16 août ont été réacheminés. Depuis donc, le vol du 17 août au matin à 1h du matin, on a à peu près 1000 passagers concernés à l'heure actuelle par des impacts. On en a 600 en Nouvelle-Calédonie, dont 50 qui étaient à destination de Bangkok. À Bangkok, l'ensemble des personnes ont été redirigées. À Paris, on en a à peu près 250 en souffrance. Et sur Singapour, à peu près 300 personnes qui sont en cours d'acheminement vers Singapour, que nous allons rediriger dans les jours qui viennent.
Et donc toutes ces personnes en souffrance, entre guillemets, comme vous le disiez il y a un instant, sont accompagnées par les équipes et les escales et les escales, bien sûr.
Alors, elles sont accompagnées par les escales ou par chacune des escales, quand elles ont pu avoir contact direct personnel avec. Sinon, elles sont en communication directe avec nos équipes commerciales qui leur envoient des messages réguliers. Et effectivement, il y a deux types de prise en charge, soit directe, soit par la réclamation.
Laurent Fogliani, est-ce que vous comprenez l'agacement d'un certain nombre de passagers aujourd'hui qui sont un peu dans l'expectative en se demandant si leur avion va pouvoir ou non partir ?
Alors oui, tout à fait, je comprends et c'est tout à fait compréhensible. La frustration des clients qui peut être ressentie, elle est légitime. Nos équipes la vivent également. Là, si je peux me permettre, je ferai un appel au calme aussi parce que aussi bien pour les agents des agences de voyage comme d'Air Calin, quelle que soit l'escale, chacun fait au mieux en fonction des disponibilités. Et je pense qu'on peut se dire honnêtement, aucune violence, ni verbale ni physique, ne peut être justifiable dans ces cas-là.
Parce que donc, vous l'avez constaté de
plusieurs Nous l'avons déjà reprises. Constaté, évidemment. Nous faisons au mieux. Ce que je peux déjà vous dire aussi, c'est qu'on essaie dans ces cas-là et systématiquement de pouvoir rerouter nos clients. On s'assure systématiquement qu'ils arrivent à destination, effectivement avec un délai. Il se peut, dans ces cas-là, que la classe qu'ils ont achetée aussi au départ ne soit pas disponible. Ceci demandera et donnera lieu à une réclamation ultérieure, bien évidemment. Et qu'on puisse les avoir acheminés dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions de sécurité. Ça, c'est ce à quoi on s'engage. J'invite aussi chacun des passagers qui seraient en souffrance et qui n'auraient pas eu de contact à aller consulter la page des contacts de notre site internet. Vous avez l'ensemble des contacts de nos escales, Nouméa, Paris, Bangkok, Sydney, et le numéro de téléphone joignable pour Nouméa est le 26 55 00.
26 55 00. Merci pour toutes ces précisions pratiques, Laurent Fogliani. Un dernier mot, parce que ce sont bien les vols long courrier qui sont touchés. Le programme régional, lui, suit son cours avec un programme normal.
Tout à fait. Des impacts très limités. Le programme régional Sydney, Brisbane, Auckland, Wallis et Papeete reste d'actualité. Les vols opèrent et peuvent être amenés à être légèrement impactés. Ça voudrait dire un décalage dans les horaires de départ uniquement.
Laurent Fogliani, directeur de la coordination stratégique d'Air Calin, merci d'avoir été en direct avec nous dès l'ouverture de ce journal.
Merci à tous et merci de votre compréhension.
Les meilleures carcasses de la foire de Bourail étaient mises aux enchères ce matin à l'OCEF, une vente qui permet de récompenser les éleveurs et de valoriser leur travail. Cette année encore, les enchères ont grimpé. Léo Fichou, vous étiez sur place.
Oui, il y avait foule ce matin dans les chambres froides de l'OCEF à Ducose, de nombreux éleveurs mais aussi de nombreux bouchers. Après le concours de la foire de Bourail qui avait lieu mercredi dernier au domaine de Deva, les meilleures carcasses étaient une nouvelle fois mises à l'honneur. Le premier prix du concours bovin revient cette année à la station agricole de Nassandou. Une belle récompense pour Robert Christopher, gérant de la station.
Grand gagnant de ce concours carcasse gros bovin de la foire de Bourail 2026, Agricale Nassandou de Païta, avec un sénésin de 615 kg et un rendement exceptionnel de 70%.
Ah ben c'est une grande joie pour nous. C'est le résultat de notre travail, quoi. Ça, c'est tous les jours. H24. Le matin, nourriture, entretien du bétail, déplacer sur des parcelles plus vertes. Ah, c'est un travail de tous les jours. On est fiers. C'est un sénésin de 3 ans. 3 ans de travail derrière pour l'emmener jusqu'à là.
La carcasse a ensuite trouvé preneur auprès de Géant Sainte-Marie. Les bouchers ont fait monter les enchères jusqu'à 3210 francs le kilo, soit près de 2 millions de francs pour la carcasse, une somme qui récompense directement la qualité de l'animal, mais aussi et surtout le travail réalisé pendant plusieurs années. Vous l'avez entendu, 3 ans par l'éleveur. Hans Biré, responsable et superviseur des boucheries de Géant Sainte-Marie.
C'est vraiment pour le commerce, c'est pour vraiment attirer le monde, c'est vraiment, voilà, c'est un coup d'éclat, quoi. C'est pour vraiment attirer, drainer le monde, voilà, c'est vrai. Et bien sûr, toujours pour valoriser le mieux les carcasses du travail des éleveurs, récompenser, c'est plutôt une récompense quoi, voilà, aux éleveurs, quoi. Bien sûr, c'est normal. Pour moi, c'est une chose spéciale, donc je forme une à la relève, quoi. Donc ouais, c'est vraiment exceptionnel, là, 3100, ouais. Oui, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, bien sûr.
Cette carcasse, vous l'avez regardée, il y avait quelque chose en particulier quand même dessus
ou... Elle était bien faite, bien conforme, elle était avec pas beaucoup de pertissage à l'intérieur, à l'extérieur, donc elle est compacte et tout, ouais, c'est du lourd, ouais, ça va être très, très bon, ouais.
Et cette année, le concours a réuni un plateau particulièrement fourni, 24 carcasses bovines, mais aussi 8 carcasses de veaux. Une participation qui permet aussi de montrer la diversité de l'élevage calédonien, tenu à souligner Mathieu Autogali, directeur de l'OCEF section viande.
C'est bon signe, ça veut dire que la filière est dynamique. Hein. 24 carcasses, c'est un très bon taux de participation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de carcasses. Et comme vous avez pu le voir, c'est des carcasses exceptionnelles. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres, même s'il a fallu les différencier. Là, on a une belle diversité de races, hein, on a un petit peu de tout. Ça vient de différentes communes, du nord, du sud, du centre. C'est vraiment représentatif de la qualité de l'élevage local.
Et on signalera que les professionnels du Nord, les bouchers notamment, ont pu participer à ces enchères via visioconférence et WhatsApp. Dès samedi matin, les viandes de ce deuxième concours de l'année seront à retrouver dans les boucheries du territoire.
Merci Léo. Dans un instant, on va marquer une pause. Mais avant cela, notre question du jour.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier. 58% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas approuver l'envoi à Paris d'une mission transpartisane pour essayer de trouver une solution aux difficultés financières de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont à l'inverse 42% à dire qu'ils approuvent ce déplacement. Et puis voici notre question du jour. Le Conseil constitutionnel a-t-il eu raison selon vous de rejeter l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans en estimant que le texte porte atteinte à la liberté d'expression? Si vous pensez que le Conseil constitutionnel a eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a eu tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Dans un instant, il est 11h43, on se retrouve pour évoquer la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chérie, regarde, le mail de la ville du Mont d'Or. La taxe communale d'aménagement est supprimée pour cette maison à 20 millions.
Hein, mais c'est une blague, ça nous fait économiser combien?
700 000 francs.
Oh, ben c'est bon alors, oh là là, viens, on va direct chez le concessionnaire.
Tu te moques de moi? Avec 700 000 francs, on refait toute la cuisine.
Mais non, il vaut mieux un petit bateau pour aller à la pêche le week-end.
Toi, tu penses vraiment qu'à t'amuser.
La ville du Mont d'Or, une ville qui agit pour vous.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103.
RRB 11h 13h. Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et l'économie montrent quelques signes de reprise, mais elle reste fragile. L'ISEE a publié sa dernière note de conjoncture, Nicolas Legrand.
Oui, et signe de confiance. Hein. D'après cette note, le nombre d'entreprises progresse au premier trimestre 2026 avec la création de 99 nouvelles entreprises productives. Le marché du travail reste tout de même sous tension. Sur un an, le nombre d'employés recule de 0,7%, tandis que l'emploi salarié progresse de 0,3% pour atteindre 56 140 salariés dans le privé et 21 500 dans le public. Enfin, la consommation des ménages reste fragile malgré un ralentissement de l'inflation, moins 0,3% par rapport à 2025. Le marché de l'immobilier montre un léger repli au premier trimestre par rapport au point culminant du quatrième trimestre 2025, tout en maintenant une activité supérieure à celle observée au premier trimestre 2025. La consommation montre des signes de reprise. Les ventes de véhicules neufs sont en légère hausse et les départs en voyage progressent. Enfin, on signalera que les exportations sont en nette hausse de 21%.
Steve Territeau entame un troisième mandat consécutif à la tête de la FEDE. Il a été réélu secrétaire général à l'issue du congrès du syndicat réuni la semaine dernière à Wailou. Un 23e congrès qui a été l'occasion d'évoquer l'histoire du syndicat, nous a dit Steve Territeau, qui était ce matin notre invité à 7h30.
C'est les 80 ans de la FEDE, créée en février 1946, qui est partie du syndicat des fonctionnaires agents ouvriers pour devenir la fédération des fonctionnaires en 1974. Donc aujourd'hui, 80 ans après, on a bien l'intention de valoriser cet événement. C'est aussi une grosse responsabilité vis-à-vis de nos anciens. Hein. Je vous rappelle que à la tête, il y a eu premier, c'était Armand Hollène, ensuite ça a été Gilbert Nouveau, Joao Dalmeida, David Meyer. Oui, c'est des grosses responsabilités et on se doit de perdurer leur combat.
La Fédé a profité de ce congrès pour faire un point sur son fonctionnement. Le monde syndical est lui aussi touché par des changements d'habitude. Mais en termes d'effectifs, la Fédé se maintient, nous a dit son secrétaire général.
On se maintient. Aujourd'hui, le militantisme n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Mais on se maintient. Le plus dur, c'est de se créer sa place et de se positionner vis-à-vis des institutions. Mais la Fédé se porte bien et elle se maintient en nombre d'adhérents.
Est-ce que dans cette période où on parle beaucoup de reconstruction, où on a besoin que les Calédoniens soient rassemblés, est-ce que c'est facile de faire exister un syndicat? Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à porter une voix particulière ou c'est peut-être plus compliqué qu'à des périodes plus calmes?
Oui, les syndicats ont leur place mais ont beaucoup de mal à s'installer dans les discussions. Oui, qu'il faut s'inscrire dans la démarche générale, celle de la reconstruction et de la relance économique. Mais la particularité de la FEDE, c'est qu'on reste un syndicat indépendant et apolitique. On a nos idées, celles d'une équité et d'une justice sociale. Donc on essaye d'avancer, les pieds en même temps, relance économique, mais tout en conservant une justice et une équité sociale qui est primordiale pour une société viable.
Ce qui a occupé l'essentiel des travaux du 23e congrès de la FEDE, c'est évidemment la situation économique et sociale. Le syndicat souhaite des mesures d'accompagnement pour les personnes les plus vulnérables et fait des propositions concrètes.
La précarité qui existait déjà avant 2024, elle s'est intensifiée après 2024. On parle notamment d'une explosion des bons alimentaires et des bons d'hygiène. Donc oui, on a axé nos travaux sur ça. Ce qui a ressorti comme motion, c'est de travailler sur un système de protection sociale universelle, que ça soit pour la santé, la famille, les retraites. À court terme, de travailler sur le développement des CCAS ou la création des CCAS dans les communes qui n'en ont pas, voire des CIAS, des centres intercommunaux. Se servir également du pacte de refondation qui nous accompagne pendant une période bien déterminée. D'inclure les travailleurs sociaux qui sont mises à disposition, proposées dans le pacte de refondation pour travailler sur une évaluation des besoins. On a travaillé sur des mesures bien précises en matière de solidarité également. C'est la création de la maison des associations de façon à regrouper les différentes associations. Oui, on a axé principalement nos travaux sur le social parce qu'on s'aperçoit que la précarité, elle est là, que les gens, il y a beaucoup de Calédoniens qui ont besoin de manger. Et ça reste un besoin primordial pour une société équilibrée.
Steve Territéaou, le secrétaire général de la FEDE, qui était ce matin notre invité. Émission à retrouver évidemment sur notre site internet rrb.nc. La cybercriminalité touche aussi la Nouvelle-Calédonie et même le Pacifique. En Polynésie française et sur le territoire, la néobanque Bibunk a connu un incident de sécurité en mars dernier. Les données de 12 000 clients se seraient retrouvées en vente sur le dark web. Un type d'arnaque malheureusement bien rodé selon l'expert en cybersécurité Laurent Rivaton.
C'est complètement organisé, c'est complètement structuré, c'est complètement mondialisé. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans différents domaines en fait. Et donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a des gens qui ont volé ces données et qui après, comme c'est pas des spécialistes de leur utilisation, ils les mettent en vente de façon à ce que d'autres, qui sont spécialisés dans différents types d'arnaques, puissent acheter ces données pour les utiliser pour leurs arnaques. Les informations bancaires, elles sont intéressantes parce qu'en général, elles sont personnelles et elles sont identifiables par les victimes ou les cibles. Si on m'appelle en me disant « Bonjour, monsieur Rivaton, je vous appelle parce que je représente telle banque, votre numéro de compte, c'est ça, etc. » Ces éléments étant vrais, je vais avoir confiance dans l'interlocuteur que j'ai au téléphone. Et donc, du coup, ce climat de confiance, il va instaurer un lien qui va permettre à l'arnaqueur qui est de l'autre côté de m'escroquer de l'argent, par exemple.
Ce qui réclame donc une vigilance très particulière, rappelle à Laurent Rivaton.
Quand il n'y a pas de contact direct de quelqu'un qu'on voit, dont on peut vérifier l'identité, il faut être méfiant ou à minima prudent. Dès qu'on vous demande, en général dans l'urgence, de fournir des éléments relatifs à de l'argent ou des éléments qui sont secrets, typiquement quelqu'un qui vous dit vite, vous êtes menacé, enfin je ne sais pas quelle histoire, donnez-moi vite votre compte et votre mot de passe pour que je puisse vérifier que vous n'avez pas de problème. Là, il y a donc une demande urgente de communiquer quelque chose qui est secret, un compte et un mot de passe. Il faut se méfier. Il faut respirer, prendre son temps, prendre quelques secondes pour réfléchir à la situation. Est-ce que le coup de fil est légitime? Par exemple, si c'est quelqu'un qui prétend être de ma banque, rappeler la banque sur le standard et demander qu'on me passe la personne pour poursuivre la conversation. Il y a tout un tas de stratagèmes comme ça qui permettent de s'assurer que c'est pas n'importe qui m'appelle et qui essaie de m'arnaquer. Donc, dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a du secret, il faut être prudent.
Les dirigeants de Bibunk indiquent prendre très au sérieux le fait que certaines données issues de cet incident puissent aujourd'hui être accessibles et utilisées par des personnes malveillantes. La banque invite donc aussi ses clients à faire preuve de la plus grande vigilance. 11h51, nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et notamment le plan d'aide annoncé par le Premier ministre pour les zones touchées par les incendies.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Et si la nature racontait notre histoire, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie vous invite à un rendez-vous sur le thème des liens entre nature et culture. Jeudi 20 août 2026, de 18h à 20h, dans l'hémicycle du boulevard Vauban, venez échanger avec nos intervenants qui vous feront découvrir comment la nature façonne nos savoirs, nos pratiques et nos modes de vie. Entrée libre.
Envie de saveurs authentiques? Ne manquez pas le 8e Salon Saveurs et Traditions à Kowekara, organisé par la CMANC, un rendez-vous gourmand placé sous le signe du savoir-faire local. Vendredi 21 août de 12h à 16h30, puis samedi 22 de 9h à 16h30 et dimanche 23 août de 9h à 15h. Animation, dégustation et entrée libre.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal L'Actualité en Métropole avec Jean-François Boudin.
Oui, pour parler des incendies et de leurs conséquences, Sébastien Lecornu s'est rendu au Porges, en Gironde, l'une des communes les plus touchées, avec près de 200 maisons détruites par les flammes. À son arrivée, il a été hué par une partie des habitants qui critiquent la gestion des opérations de lutte contre les incendies, estimant avoir été sacrifiés. Sébastien Lecornu a travaillé avec les élus locaux en fixant un cap.
Plutôt que des grandes phrases, plutôt que de faire des tweets, plutôt que de se montrer en photo et plutôt que de se mettre en scène, je préfère mettre du concret. Et c'est vrai, c'est ma culture d'élu. Je fais confiance au maire, au conseil municipal. C'est sur le résultat qu'il faut être jugé.
Le Premier ministre a annoncé des mesures pour faciliter la reconstruction des biens détruits, notamment des procédures accélérées pour les permis de construire, une politique de reboisement stratégique ou encore des aménagements fiscaux pour les entreprises. Une campagne pour valoriser l'attractivité de la région doit aussi être lancée. Et pour cela, une enveloppe de 100 millions d'euros va être débloquée. Et même si certains points restent à préciser, c'était une réunion utile et profitable, estime le maire du Porges, Martial Zaninetti.
On a le sentiment véritablement que l'État est à nos côtés, qu'il y a tout un dispositif qui se met en place, avec des annonces quand même en grande partie qui étaient attendues. Maintenant, il faudra que tout cela se concrétise.
Et pendant ce déplacement de Sébastien Lecornu en Gironde, Emmanuel Macron a rencontré, alors qu'il est en séjour au fort de Brégançon, les pompiers et les élus locaux. Le Var a lui aussi connu des incendies particulièrement violents. Et le chef de l'État a confirmé que le dispositif d'aide qui sera mis en place sera le même que celui que son Premier ministre a annoncé en Gironde.
Je veux d'ores et déjà vous dire ici, après avoir échangé avec le Premier ministre, que ce qui a été annoncé par lui en Gironde il y a quelques heures, pour les communes qui sont dans la même situation que celles qui ont été frappées, à la fois sinistrées et évacuées, les mêmes dispositifs seront mis en place. Et que les mêmes mécanismes d'accompagnement pour les communes, pour les forces économiques, pour nos compatriotes seront évidemment déployés pour venir en aide à ceux qui ont été touchés. Et nous savons aussi que nous aurons à penser l'avenir, à reboiser, peut-être à inventer d'autres formes d'activités pour mieux protéger nos villes et nos villages, à le faire aussi en tirant toutes les leçons de ce que nous avons appris. Être plus dur encore sur le débroussaillage, permettre à nos forestiers de faire leur travail dans de meilleures conditions et d'aider nos pompiers à intervenir encore plus vite, comme nos gendarmes, et savoir couper le feu aux bons endroits. Et donc, sachons tirer vite les leçons que nous avons apprises à l'épreuve du feu.
Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon. Sébastien Lecornu a également mis la pression sur les assurances pour qu'elles accompagnent au mieux la reconstruction des zones sinistrées. Mais rien ne devrait empêcher une hausse des primes de l'assurance habitation en fonction de la région et des risques auxquels est exposée. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
D'après l'agence de notation Morningstar DBRS, le montant total des dégâts liés aux feux de forêt en France pourrait atteindre entre 10 et 15 milliards d'euros, et c'est sans compter les effets de la sécheresse, qui est le premier risque regardé par les assureurs, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. L'aléa est devenu récurrent, tout comme la hausse des assurances habitation, explique Ralph Ruimi, président de l'assurance en ligne Achille.
Est-ce que l'assurance habitation va augmenter cette année? Malheureusement, je pense que oui, comme depuis 4-5 dernières années, elle a toujours augmenté. Vous allez avoir des assurés qui vont voir leur assurance habitation ne pas augmenter, augmenter très peu, et d'autres qui vont avoir une augmentation significative. Ça va dépendre de la région, du nombre de sinistres qu'ils ont eu. Je serais pas très choqué qu'on ait une augmentation entre 10 et 15% l'année prochaine.
L'an dernier, selon le baromètre d'Assureland.com, le coût est passé de 274 à 310 euros en moyenne. Des augmentations qui ne seront pas uniquement liées aux catastrophes de l'été, mais qui vont prendre en compte tous les événements de l'année. Et face à cette multiplication des sinistres, les assureurs insistent sur sur les moyens de prévention, comme par exemple le débroussaillage obligatoire quand votre maison est proche d'une forêt.
Et notez que la Belgique aussi connaît d'importants incendies, notamment dans l'est du pays. Cela fait une semaine que les pompiers luttent contre les flammes. 3000 hectares ont déjà été détruits, plusieurs villages évacués, mais aucune victime n'est à déplorer. L'actualité en métropole, ce sont aussi les suites du piratage des services fiscaux. Les données personnelles de quelques 678 000 contribuables ont été piratées par des hackers en juin dernier. L'affaire fait grand bruit. Sébastien Lecornu a réuni une cellule de crise. Il a demandé un audit approfondi sur la sécurité du système informatique. Pas suffisant pour le sénateur socialiste Patrick Kanner, qui réclame lui une commission d'enquête sur cette fuite de données.
Si le Premier ministre, en plein milieu du mois d'août, monte cette cellule interministérielle, c'est que la situation est très grave. Nous vivons une situation inédite et on peut toutes et tous espérer que quand le fisc détient nos informations les plus personnelles, elles soient protégées. Elles ne l'ont pas été. Donc, je suis heureux de voir la mobilisation du gouvernement. Je suis par contre très circonspect sur le fait qu'on n'en soit pas arrivé là. C'est l'objet de ma demande, une commission d'enquête parlementaire et notamment au Sénat. L'objectif, c'est d'abord de savoir quelles sont les responsabilités. Les Français ont besoin de savoir ce qui s'est passé. On a porté atteinte à leur vie privée. Nous sommes une cible. Nous devons avoir des systèmes de protection de nos données supérieurs aux autres. Encore une fois, nous avons été une victime alors que nous devrions être ultra protégés.
Le sénateur socialiste Patrick Kanner. Et puis, notez en bref que Gérald Darmanin renonce à se présenter à l'élection présidentielle. Le ministre de la Justice l'a annoncé dans les colonnes de La Voix du Nord. Il ne veut pas, dit-il, ajouter de la confusion et de la division. Gérald Darmanin annonce qu'il soutiendra la candidature d'Édouard Philippe. Il est 11h58, la dernière pause de ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme. À visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
On va commencer par le football. L'Olympique Lyonnais qui est à deux rencontres d'une participation, pourquoi pas, à la Ligue des Champions. Les Gones joueront demain matin, Lionel Sabot, leur barrage de qualification.
Oui, et quel match, quelle rencontre l'Olympique Lyonnais qui sera confronté en match aller-retour au Turc de Fenerbahçe. Si en termes de jeu, les Lyonnais ont toutes leurs chances. On sait que les déplacements en Turquie sont toujours extrêmement compliqués eu égard à la ferveur du public. Lyon sera en déplacement à Istanbul demain matin pour nous. Coup d'envoi de la rencontre, 6h, heure de Nouméa. Le match retour se jouera dans une semaine au Parc OL. Au total, ce sont 7 places qui sont à prendre pour participer à la phase de poule de la Ligue des Champions. Demain matin, deux autres matchs au programme. Les Bulgares du Levski Sofia recevront les Grecs de l'AEK Athènes et le Dynamo Zagreb recevra les Vikings Stavanger. Jeudi matin, nous suivrons les Écossais du Celtic Glasgow qui rencontreront les Autrichiens de Leeds. Les Israéliens de l'Apoel Bercheva recevront les Azeris du Saba FK. Les Slovaques du Slovan Bratislava recevront les Slovènes du NK Cluj. Enfin, les Néerlandais du NEC Nijmegen accueilleront les Norvégiens de Bodø/Glimt, une équipe qui avait créé la sensation la saison dernière en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et puis du golf en Calédonie, c'est en effet ce matin qu'a été donné le coup d'envoi du SPJO, le South Pacific Junior Open.
Effectivement, les joueuses et joueurs sont sur le parcours pour ce premier tour du SPJO de Tina, âge. Jusqu'à jeudi, ce sont 42 jeunes, dont 16 filles, qui vont participer à ce tournoi. Parmi ces joueurs, les meilleurs Calédoniens, évidemment, y compris ceux qui effectuent leurs études, notamment aux États-Unis, mais aussi deux joueuses venues de métropole et d'Australie. La jeunesse mise en avant sur ce tournoi, c'est d'ailleurs un golfeur calédonien, Hugo Koch, qui est le directeur de ce tournoi. Explication avec Jean-Benoît Peudetour, le président de la Ligue calédonienne de golf.
Pour le mettre en avant et puis pour le travail qu'on essaye de faire depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire mettre les jeunes en avant et leur montrer derrière l'envers du décor, puisque organiser une compétition, enfin quand on n'est que joueur, on est là pour jouer et ça lui permet de voir l'envers du décor avec comment est-ce qu'on organise, comment on met un petit peu tout le monde en relation pour que justement une épreuve de cet acabit-là puisse faire en sorte que ça se fasse bien.
Les joueurs sont donc sur le parcours pour cette première journée de compétition, première journée avec une météo qui pourrait en embêter plus d'un. On retrouve Jean-Benoît Peudetour.
J'étais au titre départ ce matin et effectivement, il y a déjà, je pense, 15 nœuds établis. Donc, départ du 10 aujourd'hui sur la config de l'épreuve. Donc, du coup, vent de face directement. Donc, je pense que oui, ça va être un vrai challenge golfique.
Le South Pacific Junior Open qui se poursuit donc jusqu'à jeudi sur le parcours de Tina.